Quartier, fiction, un atelier radiophonique proposé par la compagnie Est-ce Vrai, d'où tu me regardes. Entre février et mai 2024, nous avons dialogué et écrit avec une classe de seconde ASSP du lycée d'Alembert dans le 19e arrondissement de Paris et leurs professeurs Céline Cottaz et Adeline Monge. Les élèves ont parlé de la place des femmes dans l'espace public et dans le monde professionnel, du regard qu'on pose sur les filles racisées, de ce qui les empêche d'avancer et de ce qui leur donne de la force. Elles ont décrit des trajectoires de femmes qui les inspirent et ont préparé une rencontre avec l'autrice et championne de boxe Aya Sissoko. Un projet mené en collaboration avec l'atelier du plateau.
Le 5 février 2024, Yana et Suzanne sont venues dans notre lycée. Nous nous sommes réunis au CDI. Nous avons poussé les tables et les chaises. Nous avons écouté des témoignages de femmes qui vivent dans des quartiers populaires de banlieue. Elles racontent comment elles traversent l'espace public, comment elles traversent la ville sous le regard des autres, sous le regard des hommes, ce qu'elles osent faire ou ne pas faire. On a fait un premier tour de table, on a parlé de ceux qui nous empêchent d'avancer et de ceux qui aident à tracer notre chemin.
Ceux qui m'empêchent.
Les gens qui te suivent, les regards insistants, les remarques déplacées dans les transports ou dans la rue, sur la tenue ou sur le physique, tu peux te faire traiter de pute pour n'importe quoi dans la rue, mais bon, faut pas écouter les gens, parce que si on écoute les gens, on n'avance pas.
Ce qui m'empêche d'avancer, ce sont les remarques, ce sont les vêtements, le physique, c'est l'entourage, ta famille, tes parents, c'est notre conscience qui nous dit
« Faut pas s'habiller comme ça ».
Ou alors, dans le monde du travail,
« Tu peux pas t'habiller comme tu veux ». Ce qui m'empêche, métier, société, tradition, misogynie, tâches ménagères, devoir s'occuper des frères et sœurs.
Ma sœur, elle a dit que quand elle s'habillait dans la vie de tous les jours, elle a pu avoir des remarques. C'était pas spécialement des hommes, c'était aussi des filles. Elle a dit que quand elle était jeune, elle avait plus de remarques et aussi des gestes très déplacés. Mais maintenant qu'elle a grandi, elle en a moins. Parce que les mentalités ont changé, mais elle a toujours des remarques sur des petites choses ou sa façon de travailler ou de penser.
Elle est comment ta sœur ?
Elle est petite, 1m58, quelque chose comme ça. Elle a les cheveux lisses, elle porte des lunettes, elle est métisse. Elle travaille dans l'accueil de... Comment on dit ça ? Dans l'assurance. Voilà, elle travaille dans l'assurance.
C'est à cause de vous.
Les gens aiment bien juger l'apparence.
C'est à cause de vous.
Les noirs, les blanches, peu importe.
C'est à cause de vous.
C'est à cause de vous, les filles, les femmes, on ne sait pas bien quoi, mais...
C'est à cause de vous.
Bien sûr.
C'est à cause de vous, les jeunes, vous êtes un cas désespéré. Vous vous améliorez pas la vie, vous empirez les choses.
Parce qu'on a changé, parce qu'on a des téléphones, on est toujours pointé du doigt. Alors que toutes les choses où on a dit...
Vous voyez, c'est votre faute et tout.
C'est même pas nous qui les avons inventées, c'est eux. C'est eux qui les ont inventées, mais nous, faut pas qu'on les utilise.
Même les 06, les 2 ans de plus que nous, ils se permettent de nous juger.
Vous vous maquillez trop, ça va pas, vous vous habillez trop, ceci, cela...
Même eux, ils nous laissent pas tranquilles.
Ils font les anciens en mode ils ont 40 ans, de plus que nous. Surtout les filles dans les couloirs.
Elles vont nous dévisager et tout et tout.
Elles n'aiment pas qu'on s'habille en mode crop top, des trucs comme ça.
Même si tu as un plaquage, tu vas avoir des remarques.
Un plaquage, madame, j'ai dit, vous connaissez pas, ben c'est quand tu te plaques les cheveux, comme ça, comme elle, tu vois, avec du gel, genre. Voilà.
La nuit.
On n'a pas le droit de sortir la nuit, on entend tout un tas de choses. Tout le monde sait que les filles peuvent se faire agresser, même pour les garçons, c'est risqué. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, les parents nous parlent tout le temps de ça.
Tout ce que tu vois à la télé et dans les journaux et sur les réseaux, la nuit, t'es beaucoup plus vulnérable. Et il y a moins de monde à la rue pour te protéger. Moi, ça va, c'est facile la nuit. Tu passes, tu baisses la tête et on te voit même pas.
Ma grande sœur, elle a le droit de sortir. Elle a 23 ans, mais c'est quand même dangereux pour elle de rentrer tard. Ou alors, elle se fait raccompagner.
Par exemple, le soir, dans les transports, il y a des hommes bourrés qui peuvent t'accoster. Moi, je sais qu'il y a des femmes sur TikTok, elles montrent genre leur soirée. Il y a une femme, par exemple, elle montre que dans son sac, elle prend toujours un gros t-shirt et un survêtement pour quand elle prend les transports en commun pour pouvoir se changer. Pour qu'elle soit pas en robe et tout. Pour qu'elle soit pas suivie par des hommes.
Boxe. Un jour, je sortais de mon cours de boxe. Je suis devant la salle. J'attends. Et un monsieur dans le besoin, il vient me demander des sous, je lui dis j'en ai pas. Et il me laisse tranquille, mais après il revient et me dit...
C'est combien ?
Je lui dis, c'est combien quoi ? Il me dit...
C'est combien ?
J'ai dit, mais quoi, pourquoi ? Et il m'a répondu.
Pour faire l'amour.
Et là, je vous jure, je me suis étonnée moi-même, j'ai réagi et je lui ai dit, monsieur, vous me manquez de respect. Alors il a dit...
Pardon.
Et il est parti.
Dans le quartier. La nuit dans la ville, il y a des règles. Il faut les connaître pour savoir où tu peux être en sécurité. Dans le quartier, il y a d'autres règles. Il faut les comprendre pour savoir où tu peux aller.
Moi, en tant que fille, je n'ai jamais eu de problème à jouer dehors. J'ai toujours eu une liberté. Peut-être c'est parce que je ressemble à un garçon, ou pas. C'est en grandissant que ça devient compliqué de jouer dehors, mais je continue à jouer dehors, basket, foot, et en plus avec des garçons.
Pour moi, il n'y a pas de différence entre adolescente et petite fille, car je fais toujours les mêmes loisirs, jouer au foot par exemple.
De petite fille à adolescente, ça change car en tant qu'adolescente, on ne se mélange plus avec les garçons. Eux non plus ne traînent plus avec nous. En tant que petite fille, tu peux jouer dans le quartier avec d'autres, mais pas en tant qu'adolescente, car il y a des guerres de quartier et si on va dans un quartier d'autrui, on peut se faire racketter.
En tant que femme voilée, je ne peux pratiquer tous les sports comme la natation, la gymnastique. Par exemple, certains clubs de basket ne laissent pas de femmes voilées aller en compétition. Dans les lieux de musculation, une femme peut être prise comme une proie. Certains hommes, quand ils voient une femme dans une salle de musculation, ils ont des pensées malsaines qu'ils peuvent mettre en pratique.
La vie dans les quartiers, ce n'est pas la même chose pour les filles et les garçons. Parfois, pour les garçons aussi, c'est dur. La moindre petite chose que font les garçons auront des conséquences, tandis que si ce sont les filles qui traînent en bande, ça ne produit rien. Nous, les femmes, la police ne nous calcule pas trop, alors que les garçons sont beaucoup contrôlés, surveillés et violentés.
Il y a des choses qu'on te dit parce que tu es une femme, et encore plus parce que tu es une femme noire. Et ça te fait changer de comportement, par exemple.
Comment choisir tes vêtements par rapport au regard des autres?
Le premier critère, normalement, c'est d'être à l'aise.
C'est l'envie de te cacher aussi. Tu prends les trucs amples.
Pas de mini-jupe, sauf avec des collants de temps en temps.
T'es pas à l'aise quand on voit ton corps?
Moi, je me trouve trop mince parce que dans ma famille, on me le dit tout le temps. T'es trop mince, t'es trop mince.
Moi, parfois, le matin, je change de tenue parce que je ne suis pas à l'aise. Parfois, je change parce que je me trouve trop habillée.
Moi, je suis un garçon. Je suis même le seul garçon de ma classe. Moi, la façon dont les femmes s'habillent, dont tout le monde s'habille, ça m'est égal. Moi, je ne juge pas. Même si un garçon veut porter une jupe, ça le regarde lui, pas moi. Tout le monde est libre de porter ce qu'il veut. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une femme, mais je suis racisée. Et j'ai des remarques, moi aussi. Quand j'ai fait mon stage en maternelle, un enfant m'a demandé si c'était mes vrais cheveux. C'était un enfant, c'était pas méchant. Il pensait que c'était une perruque.
Moi, j'assume pas trop mon afro ou que à la maison. Tu vois, il y a une vidéo sur TikTok d'une femme avec une afro à qui tout le monde touche les cheveux, alors qu'on lui a même pas demandé. Les gens se permettent ça.
En Chine, il y a même une mode afro maintenant. Ils font des afros permanentes.
Je ne sais pas si ça me gêne qu'on coupe mes cheveux. Ça te gêne, toi ?
Non, moi, ça ne me dérange pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils aiment, tant mieux pour eux.
Quand j'ai fait mon stage, un enfant de maternelle m'a demandé « Pourquoi t'es noir ?» Je lui ai répondu « Et toi ? Pourquoi t'es blanc ?» De manière générale, je ne cherche pas les conflits ou les problèmes. Je ne réponds pas aux remarques.
Durant mes vacances dans un camping en France au bord de mer, avec les jeunes de mon foyer, nous étions les seuls noirs. Et à la piscine, quand nous arrivons, les gens nous regardaient bizarrement. Comme si on les faisait peur. Et là, nous n'avons rien dit. On a continué à faire notre vie. J'aurais eu envie de m'approcher et leur dire que nous sommes tous pareils et nous avons le sang, le même sang qui coule dans notre veine.
Thank you.
Métier.
Elles sont élèves dans un lycée de Paris. Certaines viennent d'un autre quartier, alors elles se lèvent tôt pour traverser la ville. Je dis « elles », mais vous l'avez compris, « elles », c'est nous. Elles ont choisi la filière du soin à la personne, où tu prends soin des gens.
Elle veut devenir éducatrice spécialisée pour accompagner les personnes en difficulté. Elle veut aussi montrer aux gens qu'elle peut avoir un mental d'acier, car beaucoup de personnes lui ont dit que ce métier n'était pas adapté à son mental, parce qu'elle est une personne très empathique et sensible aux histoires des autres. Elle veut aussi montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire ce métier.
Elle veut devenir auxiliaire de puériculture pour accompagner les enfants et parce que c'est un métier qui l'inspire. Quand elle a dit qu'elle voulait faire ce métier, des personnes de sa famille lui ont dit non, car ils voulaient qu'elle devienne médecin. Et ça l'a découragée et maintenant elle s'en moque de la vie des gens.
Elle veut devenir psychologue pour jeunes enfants parce qu'elle est intéressée par le développement et le bien-être des jeunes et qu'elle a envie d'aider les enfants à surmonter leur développement, leurs difficultés.
Elle veut devenir auxiliaire de puériculture car elle sociabilise vite, que ce soit avec enfants ou adultes. Prendre soin des bébés, des jeunes enfants, les nourrir, les habiller, les divertir et les aider dans leur développement global.
Métier de rêve.
Certaines d'entre nous ont rêvé d'un autre métier, d'une autre voie, d'une autre trajectoire.
Le métier de mes rêves est de devenir chirurgienne. Je m'imagine très bien faire ce métier. Dans ce genre de métier, les hommes et les femmes ne sont pas traités différemment. C'est ce que j'aime dans ce métier. Peu importe notre sexe, que nous soyons un homme ou une femme, nous sommes valorisés car nous sommes investis et que nous faisons un bon travail.
Je rêvais d'être riche, pas forcément de métier.
Le métier de mes rêves, c'est d'être médecin, mais j'ai préféré m'orienter en lycée pro car je n'aime pas les longues études et je n'avais pas le niveau pour aller au lycée général. Mais maintenant, j'aime quand même ce que je fais.
Le métier de mes rêves, coordinatrice en EHPAD, ou comme j'ai dit, médecin. Je m'imagine dévouée à mon métier, assidue et essayant de faire mon mieux.
Je voudrais vivre au Canada, car là-bas, aucune discrimination n'est présente, en tant que femme, qui plus est en tant que femme voilée. Je ne peux pas rester vivre en France, car je ne pourrais pas pratiquer un bon métier, et encore moins le métier de mes rêves, car je porte un voile sur ma tête. Car je suis une femme. Au Canada, il n'y a aucun jugement, aucune discrimination, aucune différence. Si je reste en France, je devrais aller à l'encontre de mes principes, c'est-à-dire de porter le voile.
Je voudrais vivre à la campagne, au bon air. L'air de la ville et son bruit sont pesants. La campagne libère de cette énergie négative.
Je voudrais vivre dans un pays musulman.
Je voudrais vivre à Dubaï, car la sécurité est mieux pour les femmes. Il y a moins d'agressions là-bas.
Des femmes modèles.
Nous avons parlé des femmes qui nous inspirent, des femmes modèles. Certaines ont dit « j'ai pas besoin de modèle, je peux choisir mon propre chemin. J'ai pas envie d'idolâtrer quelqu'un. » D'autres ont dit « t'es pas obligé de faire pareil, juste c'est bien de savoir qu'une femme a réussi à faire des choses. Ça donne du courage, ça donne de la force. »
Je voudrais vous parler de Maya Angelou, écrivaine, artiste, poétesse et militante afro-américaine. Elle est une figure emblématique du mouvement pour les droits civiques en Amérique. Cette femme m'inspire car grâce à son engagement dans la lutte pour les droits civiques, elle a su raconter son histoire publiquement et surmonter les épreuves de sa vie. Elle a trouvé la force en elle-même et auprès des autres pour surmonter les obstacles, grâce aussi à sa passion pour l'écriture et sa détermination qui l'ont aidée à transformer sa douleur en inspiration. Aussi, Maya Angelou a partagé dans ses écrits des messages puissants sur l'espoir et l'amour de soi-même. Écoutez.
Aime-toi, sois doux avec toi-même. Tu es précieux et tu mérites tout l'amour que tu donnes aux autres.
Ce message me touche car c'est un rappel de l'importance de s'aimer et de se traiter avec bienveillance.
J'ai choisi Frida Kahlo car je trouve l'histoire de cette femme artiste mexicaine touchante. Elle a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, comme un grave accident qui lui a laissé des séquelles physiques et morales. Mais elle a transformé sa douleur en art. Ses peintures montrent sa force et sa capacité à surpasser les obstacles. Elle a également utilisé son art pour aborder des questions sociales et politiques importantes. Frida Kahlo est inspirante car elle est un symbole de courage, de sincérité et de persévérance.
J'ai choisi Assa Traoré car j'estime qu'elle inspire la force et le pouvoir de changer les choses. Elle est une militante antiraciste française qui s'est battue pendant 7 ans pour faire la lumière sur la mort de son frère Adama dans les locaux de la gendarmerie
le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Il allait fêter ses 24 ans. Il sera retrouvé allongé sur le ventre, menotté dans le dos, sans pouls et en arrêt respiratoire. Elle s'est battue pour que les gendarmes ayant procédé à son arrestation soient reconnus responsables de cette mort. Elle s'est battue avec d'autres en créant un comité Adama et elle a gagné après 7 ans de lutte pour obtenir justice. Elle n'a jamais baissé les bras, même après avoir été reconnue coupable de diffamation et après avoir dû payer 2 100 € à ceux qui ont causé la mort de son frère. Pour moi, elle a fait bouger les choses, elle les a fait avancer. Assa Traoré, militante antiraciste française.
Elle a 39 ans. Elle est infirmière en pratique avancée. Elle raconte, dès qu'on devient adolescente ou qu'on commence à devenir femme, il y a des hommes qui te regardent un peu de manière différente, bizarre. Elle pouvait compter sur ses parents. Dès tout petite, ils lui ont appris à se méfier. Elle dit, il faut savoir se méfier, car il y a des gens qui sont mal intentionnés encore plus le soir. Elle faisait attention de ne pas rester trop tard dehors, ne sachant pas sur qui elle pouvait tomber. Et cela encore plus parce qu'elle est une femme. Elle parle de l'intersectionnalité. Elle se trouve au carrefour de plusieurs discriminations, en tant que femme noire et en tant que femme noire voilée. Et puis elle rajoute, il y a le fait d'être mère, d'avoir des enfants. C'est vrai que cela l'a freinée un petit peu dans ses ambitions au niveau du travail. Même si son mari l'aide, dans la société, c'est plutôt la femme qui s'occupe des enfants. Pourtant, la maternité n'est pas un sacrifice. Alors, elle fait en sorte d'allier les deux, vie professionnelle et vie personnelle. Au début, c'était pas facile de trouver un équilibre, mais elle a trouvé des solutions pour changer dans sa vie. Elle a créé une entreprise. Ainsi, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle a aussi un compte Insta pour aider d'autres femmes. Leur donner des conseils pour allier vie professionnelle et vie familiale, pour que les femmes ne laissent pas tomber leurs objectifs. Elle leur dit que tout est possible malgré les discriminations, malgré le fait d'être une femme noire, voilée, musulmane ou toute autre chose, une femme mariée. Plutôt que défaitiste, chaque femme peut être actrice de sa vie.
Moi, je veux faire ça. Je veux créer mon entreprise qui accepterait tous les choix et qui ne ferait pas de discrimination religieuse, qui accepterait les LGBT et les personnes à mobilité réduite.
Lettre à Aya Sissoko.
Notre professeur de français a organisé une rencontre avec une femme qui peut être inspirante, une femme noire. Elle a vécu une enfance très difficile, mais elle est devenue boxeuse. 4 fois championne du monde, elle a arrêté la boxe, mais elle a continué à se battre. Pour faire des études à Sciences Po et pour devenir écrivaine. Aujourd'hui, elle écrit pour raconter son histoire, pour dire l'importance de la filiation, des rencontres pour ne pas baisser les bras. Elle dénonce aussi ce qui empêche dans la société française les populations les plus fragiles d'avancer. Pour préparer la rencontre, nous avons écrit des lettres à Aya. Nous avons pris la parole pour lui dire qu'elle compte pour nous.
Bonjour chère Aya Sissoko. J'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé.
Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue. Merci de sacrifier de votre temps précieux pour être ici. C'est un grand plaisir de vous recevoir.
Je voulais vous dire que j'ai bien aimé votre livre. Ça m'a vraiment touchée, votre histoire. Elle est similaire à celle d'une personne de ma famille. Vous m'avez inspirée. Il y a même ma mère qui a aimé votre histoire. Elle a dit que vous êtes une femme formidable. Elle était vraiment touchée. Elle a même pleuré. J'avais hâte de vous voir.
Je ne sais pas vraiment quoi vous dire, mais je vais vous parler de mes projets du futur. Bon, pour être honnête, je ne sais pas vraiment. C'est compliqué de savoir ce que tu veux faire à 15 ans. J'ai du mal à savoir comment je vais m'habiller demain et on me demande de choisir un travail que je vais faire tout le restant de ma vie. C'est ma partie parce que je n'aime pas vraiment cette formation. Je suis en ASSP, aide, soins, service à la personne.
J'aime beaucoup ce que j'étudie car c'est un domaine qui m'intéresse. J'étudie dans le domaine de la petite enfance. Et plus tard, j'aimerais être une infirmière puériculture au sein d'un hôpital.
Je n'avais pas d'idée, de questions en tête. Mais en tout cas, j'avais hâte de vous rencontrer en vrai. Et là, peut-être, je me suis dit que j'aurais des questions à vous poser.
Comment avez-vous réussi à rester motivée et à garder le cap malgré les difficultés rencontrées? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie?
Avez-vous pensé à porter plainte contre le médecin avec tout ce que vous avez vécu? Avez-vous déjà eu des pensées suicidaires? Si oui, qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas le faire? Avez-vous un message à passer à tous ces jeunes qui ont des idées suicidaires et qui ne veulent pas aller consulter un psy?
Je voulais vous dire à quel point votre parcours de vie est inspirant. Votre histoire de persévérance, de force et de résilience m'a touchée. Je suis impressionnée par votre détermination à surmonter les obstacles et à réaliser vos rêves. Je me demandais, moi aussi, comment vous avez trouvé la force de continuer à vous battre malgré les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Et puis, je voulais vous dire que j'ai aimé cette phrase de Massiré dans Sira. N'aie pas peur, personne ne peut t'obliger à être ce que tu n'es pas.
Je suis fascinée par votre amour de la boxe et la façon dont cela vous a aidé à vous libérer et à vous affirmer. Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la boxe ou dans un autre sport pour se sentir plus fort ou plus confiant?
Vous êtes une passionnée de la boxe. J'aime beaucoup ce sport. J'en ai fait durant mon année de 3e, mais c'était plutôt pour me canaliser. Moi, je suis une personne très active. Je ne supporte pas qu'on me juge ou qu'on me parle mal des autres. Donc du coup, je me retrouve toujours dans des histoires de quartier. Mais bon, bref. Je pratiquais le foot avec mes potes ou de la boxe avec une association.
Est-ce que durant vos combats, vous pensiez à la défaite?
J'aimerais connaître votre avis sur l'importance de l'éducation et du sport dans la vie des jeunes.
J'admire votre livre, votre manière de vous exprimer et de conter votre histoire.
Mais il y en a parmi nous qui trouvent que vous parlez un français trop soutenu. Ce n'est pas toujours facile de tout comprendre.
Votre capacité à vous ouvrir et à partager des moments personnels avec vos lecteurs est très courageuse. J'aimerais savoir quel est le déclic qui vous a poussé à écrire et si vous continuez à le faire. J'ai noté cette phrase que vous avez dite et qui m'a marquée. Quand on est le personnage d'une tragédie, on ne s'épuise pas à chercher des coupables. On s'efforce tout juste d'aller jusqu'à demain.
J'aimerais en savoir plus sur votre expérience d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui vous a motivé à partager votre histoire avec le monde? Quelles ont été les étapes du processus d'écriture pour vous avec ce livre, puis les suivantes?
Et aussi, pendant que vous écriviez votre histoire, est-ce que vous hésitez à dire certaines choses?
Est-ce que quand vous avez commencé à écrire, vous avez eu du soutien? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire autant de livres? Vous dites, ma sœur vient de perdre celui qu'elle aimait certainement plus que tout au monde. Elle ne dort plus qu'avec tes sonnifères. C'est toujours elle pour toi qui nous donne à manger et qui nous tient à l'œil.
Je suis impatiente de vous rencontrer pour discuter de l'influence qu'ont les récits comme les vôtres sur les jeunes de ma génération.
J'ai beaucoup aimé votre livre car on ressent les émotions et les sentiments de chaque personne. Votre histoire est touchante et captivante. Mon passage préféré, c'est celui de votre rééducation après votre opération, car même après cet événement, vous n'avez jamais abandonné et vous avez travaillé si dur pour retrouver vos capacités. Comme on dit, quand on veut, on peut.
En fait, dans Au nom de tous les tiens, vous nous dites que ce n'est pas si simple que cette expression « quand on veut, on peut ». Elle cache des inégalités. Le fait que même quand on veut, on ne peut pas toujours parce que les conditions ne sont pas réunies pour cela, que l'institution, que l'école ne donne pas la même chance à tous les enfants.
D'ailleurs, vous rajoutez qu'en réalité, le « quand on veut, on peut » est une insulte. Cette injonction nie la réalité du quotidien de ces adultes et d'enfants qui ne sont pas dupes. Si vous pouvez nous expliquer tout cela, et aussi vous parlez souvent d'une colère légitime, est-ce que vous êtes toujours en colère?
J'ai énormément apprécié apprendre la signification du dembé, qui a une signification tellement incroyable. Vous avez eu beaucoup de chance que votre mère vous l'enseigne, et nous trouvons que c'est important de transmettre cette histoire à votre fille. Cela lui permettra de connaître ses racines, ses origines, afin de savoir d'où elle vient et d'être fière de cela. Vous ne voulez pas que votre fille se laisse faire dans la société française, ce qui est très important en tant que fille, femme noire. À votre tour, vous dites les mots de votre mère. N'oublie pas que tu es noire et ne renonce à rien.
Moi, j'ai retenu cette phrase. Ta grand-mère avait compris que sa présence leur permettait de se donner de l'importance. Massiré Dansira savait qu'elle était une personne et que le dembé était un talisman immatériel.
Dans un entretien au Monde, vous avez d'ailleurs répondu concernant votre fille.
Je veux qu'elle comprenne d'où elle vient. Ma mère n'a jamais douté de ce qu'elle était et me l'a transmis. Son histoire, son héritage, sa filiation lui ont permis de tenir dans l'adversité. Elle m'a appris que j'étais la digne héritière des guerriers Bambara. Elle avait cesse de me répéter.
Tu n'es pas l'enfant de rien ni de personne.
Ce sont ces éléments que j'essaie de transmettre à ma fille, qui, bien que née d'un père blanc, est noire. Sa couleur de peau parle pour elle.
Enfant, j'avais honte de ma mère car j'avais conscience de sa différence. La société m'enjoignait à m'assimiler en rejetant son héritage, sa langue. Je ne veux pas que ma fille ait honte de moi et de ceux qui l'ont précédé.
À elle de choisir ses héros et ses héroïnes, et ceux-ci ne sont pas forcément celles et ceux qu'on croit.
Quel conseil donnerez-vous aux enfants de couleur d'aujourd'hui qui ne savent pas d'où ils viennent? Est-ce que votre fille est fière de vous aujourd'hui? Est-ce qu'elle a lu vos livres?
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du mot métis? Est-ce que c'est un mot que vous utilisez?
Est-ce qu'il y a des membres de votre famille avec qui vous n'étiez pas en contact, qui n'ont pris contact avec vous qu'au moment de votre réussite?
Prenez soin de vous et continuez à inspirer les autres avec votre histoire incroyable.
Merci pour ces livres inspirants et d'être là aujourd'hui pour partager avec nous. Thank you.